Bonsoir à tous. Voici donc la 48e soirée d'éthique publique, la quatrième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue aussi à ceux qui sont en lien avec nous par retransmission en direct. Nos amis fidèles de Bordeaux, de Lyon, de Poitiers, de Chaville, nos amis de la communauté francophone d'Athènes réunis à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et puis bienvenue à nos amis d'Aix-en-Provence qui rejoignent ce soir notre réseau. Il est toujours possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes, sur le site internet du Centre Sèvres. Un mot avant d'aborder le thème de ce soir. Pour vous rappeler le cycle de conférences sur les enjeux de défense et de sécurité qui se poursuit, ce cycle où interviennent des spécialistes militaires, chercheurs, journalistes, spécialistes de géopolitique, qui a pour but de nous aider à avoir un tour d'horizon, à permettre un tour d'horizon précis des questions de défense et des enjeux de sécurité pour notre pays dans le monde d'aujourd'hui. Samedi prochain, de 10h à midi, aura lieu la quatrième séance sur le thème de la guerre juste, avec le père Christian Mellon, jésuite, qui est spécialiste de cette notion de guerre juste, et Vincent Hugeux, qui est grand reporter à l'Express. Il est possible de venir à cette séance sans être inscrit à toutes les séances, donc samedi prochain à 10h au Centre Sèvres. Le mois dernier, vous vous en souvenez, pour la plupart d'entre vous, nous avons essayé de comprendre ce qui se passait en Syrie, et nous avons pris la mesure de la complexité de cette situation dramatique dans l'élaboration de notre propre jugement. Le mois prochain, le mardi 4 mars, nous essaierons de faire un premier bilan et aussi de regarder l'avenir à l'occasion du premier anniversaire, déjà, de l'élection du pape François. Où nous conduit le pape François, ça pourrait être le titre de cette soirée. Et pour nous aider, nous accueillerons notamment Frédéric Mounier, grand reporter à La Croix, qui fut jusqu'à septembre dernier correspondant du quotidien à Rome. Ce soir, nous voulons regarder la situation de notre pays et son influence dans le monde. Les interventions, notamment au Mali, en République centrafricaine, le désir de peser dans les discussions autour précisément de l'avenir politique de la Syrie, la contribution de la France à l'évolution de la construction européenne, sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies, et on pourrait ajouter plein d'autres éléments, montrent que la France entend continuer à jouer un rôle important sur la scène internationale. Qu'en est-il vraiment ? La France a-t-elle encore une influence dans le monde ? A-t-elle les moyens de son discours ? À quelles conditions peut-elle avoir véritablement dans l'avenir une quelconque influence ? Pour nous aider à y voir clair, je suis très heureux d'accueillir trois observateurs attentifs de la vie de notre pays. D'abord, M. Gilles Andréani, à ma gauche. Bienvenue, vous êtes professeur associé à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2. Sur les questions internationales, conseiller maître à la Cour des comptes, diplômé de Sciences Po, ENARC, votre carrière vous a conduit à suivre de près, de très près, les enjeux internationaux et la place de la France dans le monde, délégué adjoint aux études générales au ministère de la Défense, puis sous-directeur du désarmement au ministère des Affaires étrangères à la fin des années 80. Vous avez été notamment représentant adjoint de la France à l'OTAN en 1993, avant de devenir à deux reprises, entre 1995 et 1999, puis entre 2001 et 2004, directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pour parler évidemment de ce sujet, de notre sujet, qui est l'influence pour la France dans le monde, il n'était pas possible de rester entre nous, de rester entre Français, avec le risque soit de nous congratuler, nous sommes assez forts pour ça, soit de nous déprécier, nous sommes aussi très forts pour ça. Il nous fallait aussi entendre d'autres voix venant d'autres horizons, mais connaissant bien la France, et je crois, aimant notre pays. J'espère ne pas me tromper. Merci donc à Peter Gumble d'être avec nous ce soir. Journaliste anglais, vous avez commencé, je parle sous votre contrôle, votre carrière chez Reuters à Londres, puis à Bruxelles, à Copenhague. En 1984, le Wall Street Journal vous a recruté. Vous y avez passé 16 ans comme correspondant à Bonn, New York, Moscou, Paris, Berlin, Los Angeles. Vous êtes à Paris, je crois, depuis 2002. Vous avez notamment travaillé ici pour le magazine Time. Et depuis 2004, vous enseignez à Sciences Po, dont vous avez été directeur de la communication d'octobre 2011 à juin 2012. Observateur attentif, passionné de la société française, vous avez écrit plusieurs ouvrages, toniques, pourrait-on dire, sur notre pays. Votre premier essai, French Vertigo, chez Grasset en 2006, quelques mois avant les élections présidentielles. On achève bien Les Écoliers, sorti en 2010 également chez Grasset sur le système scolaire français. Et en mai dernier, chez De Noël, vous avez publié Elite Academy, enquête sur la France malade de ses grandes écoles. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Avec nous également M. Douglas Herbert, journaliste américain, ancien de l'Université d'Harvard. Nous pouvons vous retrouver régulièrement sur France 24, la chaîne de télévision d'information internationale française qui émet en continu en trois langues, français, anglais, arabe. Vous y travaillez depuis les débuts de la chaîne, vous avez contribué à la création de cette chaîne en 2006 et vous y êtes actuellement chroniqueur éditorialiste international. À ce titre, vous suivez donc de près depuis plusieurs années toutes les rencontres, tous les sommets internationaux. Vous serez d'ailleurs dans quelques jours à Washington à l'occasion du voyage du président Hollande. Vous avez travaillé plusieurs années pour CNN à New York, à Londres notamment, mais votre intérêt, votre goût pour le monde vous ont conduit aussi, en remontant un peu en arrière, en Russie, à Moscou pour The New York Times, dans les pays baltes, une région du monde que vous connaissez bien. Vous intervenez aussi également à l'école de journalistes de Sciences Po. J'ai découvert aussi que vous aimiez l'écrivain Amin Maalouf, ce qui m'a beaucoup plu. Merci beaucoup d'avoir accepté si gentiment de nous partager votre regard sur la place de la France et son influence dans le monde. Voilà, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos invités. La France a-t-elle encore une influence dans le monde? À quelles conditions peut-elle en avoir une? Et c'est Monsieur Peter Gumble qui va commencer.
Ok, merci beaucoup. Voilà, donc si la question posée a été quel intérêt pour la France dans le monde d'aujourd'hui, là la réponse aurait été très facile parce que depuis trois semaines, je suis complètement débordé par les demandes des rédactions partout dans le monde pour les articles sur la France après la publication de Closer. Il y a la France est champion du monde pour les relations, disons un peu différentes. Donc bref, mais c'est pas ça la question. La question c'est quelle influence. Donc je crois que ça vaut la peine de se pencher sur la définition de Joseph Nye de Harvard University. Donc la puissance dure, donc militaire, et la puissance soft, molle, qui est donc la diplomatie, la culture. Parce qu'il y a quand même une différence très importante dans les deux côtés. Alors si vous regardez la puissance dure militaire de la France, la politique en Afrique, vous allez constater très rapidement une dégradation nette et claire. Et c'est pas moi qui le dis, donc je cite là d'un rapport du Sénat qui a regardé les dépenses militaires de la France l'année dernière. Donc le constat est assez intéressant, je trouve, assez remarquable. Donc par rapport aux États-Unis, par exemple, le budget militaire de la France était 10 fois inférieur. Donc du budget militaire des États-Unis jusqu'à donc au début des années 2000. Maintenant, il est 18 fois inférieur. Donc on a presque contre les Anglais, donc les Français, donc les dépenses militaires étaient à peu près un peu supérieures jusqu'à 2004 et désormais nettement inférieures. Et là, le grand changement, la Chine, la Russie, le budget militaire de la France l'a placé à des niveaux comparables, donc à ceux de la Chine et de la Russie, dans la deuxième moitié des années 90. Aujourd'hui, les dépenses militaires chinoises sont quatre fois supérieures à celles de la France et les Russes sont... donc c'est le double. Donc c'est-à-dire que simplement si on juge par les dépenses, qui évidemment c'est pas toute l'histoire, mais on voit à quel point la France est dans une... donc l'influence... militaire, surtout la capacité militaire, est beaucoup moindre qu'avant par rapport aux autres pays. Bon, évidemment, les dépenses, c'est pas tout. La politique, donc on dit depuis très longtemps que la France a une influence militaire beaucoup plus importante que sa taille, et ça continue. Donc, quand même, Conseil de sécurité de l'ONU... depuis M. Sarkozy aussi, plus impliqué à l'OTAN, donc M. Andriani va en parler peut-être un peu plus. Et évidemment, on voit en Afrique, en Libye, on a vu en Syrie, en Mali, Centrafrique, on voit quand même une implication très forte. Simplement, je crois qu'il faut poser la question très franchement, à quoi sert tout ça? Est-ce que ça vraiment a donc un résultat qui est clair, qui est important, qui montre l'influence de la France? Ou est-ce que la France joue le jeu, mais sans être pris vraiment au sérieux? Il faut poser la question parce que la Libye, donc l'exemple là, la France a mené ce combat, c'est clair. Obama a été très réticent, il a suivi... voilà, aujourd'hui toujours Hillary Clinton est un peu donc dans l'ombre de tout ce qui s'est passé à Benghazi. La question se pose, est-ce qu'on a bien mené toute cette affaire en Libye? Est-ce qu'on a bien nettoyé tous les armements de la zone, de la région? Évidemment, la réponse est non. On sait que les armements sont partis en Mali. On sait qu'il reste énormément de problèmes en Libye. Donc, en tant que pouvoir, puissance militaire, ce n'était pas terrible. En Syrie, l'autre exemple plus donc là, très intéressant de voir la France qui prend une position classiquement française, c'est-à-dire de principe, de très bons principes, tout à fait soutenables. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était entre Obama et les Russes qu'on a donc réglé, entre guillemets, le problème des armes chimiques. Et du coup, la France a lancé le débat, a poussé très fortement pour une solution. Mais finalement, on n'a pas vraiment été complètement impliqué dans cette solution-là. Donc, je crois que là, il faut poser la question. Donc, on prend des positions de principe, c'est très bon, mais est-ce qu'on est vraiment toujours capable à mener à terme cette politique avec des résultats clairs? Alors, l'autre aspect de la France, donc puissance dure, force, hard power, c'est quand même, se joue au sein de l'Union européenne, ça c'est sûr. Et là aussi, il faut se poser les questions. La France, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle joue le jeu avec ses partenaires ou est-ce qu'elle est un peu seule? Donc, tout ce qui se passe en Afrique, on a l'impression que c'est la France qui prend l'avance et les autres qui suivent parfois et parfois pas. On voit aussi les questions brûlantes d'aujourd'hui, l'Ukraine. Donc j'attends une politique française-européenne très claire sur ce point-là. Je ne vois pas. La Turquie, c'est la cacophonie autour de ce qui se passe dans les marchés émergents autour de l'Europe sur les questions d'immigration. Donc oui, évidemment, la France a une position a des positions claires sur, plus ou moins claires sur la politique importante dans les pays comme l'Ukraine, mais est-ce qu'elle est capable encore de mener une politique ensemble avec ses partenaires européens? Et là, il me semble que la réponse est bof. Bon, pour les... Nicely. Alors, donc, puissance dure, puissance molle, puissance soft power, donc je ne sais pas comment on traduit soft power, douce. Donc, c'est-à-dire la diplomatie, la culture, la langue. Là, la France tient encore. Donc, les Américains veulent que ce ne soit pas le cas. Donc, le Time Magazine a fait la fameuse une il y a quelques années, la mort de la culture française. Et ce n'est pas vrai. Donc, il faut simplement regarder les Grammys la semaine dernière, Daft Punk, que vous écoutez sûrement tous. Donc, il a gagné le Grammy pour. Et on voit donc les Oscars, les artistes. Donc, en tout cas, il y a dans le domaine de la culture quand même une influence importante. On voit Michel Houellebecq, il est cité un peu partout dans le monde. Donc, c'est pas uniquement en France qu'il est un best-seller. Donc, il y a encore de la culture française qui a des choses à dire, et c'est très bien. La francophonie subventionnée. Qui continue. Donc, il y avait même cette semaine dans le New York Times un article sur les écoles à New York où on parle français encore. Les écoles qui sont presque bilingues, français-anglais, subventionnées par l'État français. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup d'argent qui est dépensé pour ça, avec des conséquences importantes. Donc, le français... reste une langue officielle de l'Union européenne, malgré les tentatives de 25 d'autres pays de supprimer. Et la France, il faut aussi le dire, quelque part reste un peu l'anti-modèle. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui n'aiment pas tellement la mondialisation, pour ceux qui croient toujours que l'égalité est très importante, pour ceux qui admirent José Bové, et Astérix, il y a quand même une affection pour la France, parce que la France fait ce qu'elle fait, comme elle le fait. Et c'est tout le champ de la France. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème et avec cette image. Et c'est une image qui est quand même marquée par le passé. Donc, si vous allez dans les universités françaises, américaines, pardon, si vous allez dans les universités américaines et vous dites, alors, les grands français, on va vous dire Proust, Bourdieu, Derrida. Donc, les trois noms, à peu près. Donc, on ne parle pas de Anna Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy ou... c'est pas peut-être le même le même niveau, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on reste quand même 30 ans dans le passé. Alors, on parle beaucoup de Woody Allen et les autres, les autres auteurs américains d'aujourd'hui. On parle beaucoup de Godard, Truffaut. On parle beaucoup de Edith Piaf. Il y avait dans le New York Times l'autre jour, New York Times, un article passionnant sur James Baldwin et ses années passées à Paris. Donc, effectivement, l'auteur, le journaliste, a recréé les années de James Baldwin à Paris. Il est allé boire un coup au Domago, au Café Flore. Il a mangé Brasserie Lippe. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, les jeunes artistes qui veulent découvrir le monde, est-ce qu'ils viennent à Paris? Un peu, oui, mais c'est surtout Berlin, c'est surtout Shanghai, c'est pas Paris qui attire tout le monde, comme il y a quelques années. Donc c'est un peu une image qui est en train d'évoluer. Donc, c'est-à-dire... Paris, est-ce que la France reste moderne? C'est ça la question. Est-ce qu'on reste moderne? Et Il y a, alors pour terminer ce volet sur le soft power, il y a quand même une image de la France qui n'est non négligeable, qui est un peu ringarde. C'est-à-dire les livres qu'on trouve dans les rayons, dans les librairies anglophones, sur les femmes françaises qui ne sont jamais trop grasses ou trop grosses, sur les femmes françaises qui restent belles, qui ne font jamais du lifting, sur les enfants français qui jettent jamais de la nourriture, qui sont très sages. Il y a toute une série de best-sellers, j'exagère pas, il y a toute une série de best-sellers dans les rayons, dans les librairies donc anglophones, sur les Français qui complètement caricaturales. Et donc c'est qui vraiment... Alors, le contre du French bashing, c'est le French adoration, mais c'est démesuré dans le même, dans le même mesure. Donc si on parle du soft power, c'est pas mal de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc on n'a pas... donc les Chinois, par exemple, qu'est-ce que les Chinois font en Afrique? Ils n'arrivent pas avec leurs armées pour sauver un régime ou un autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec leur fric, leur argent. Et ils ont construit une cinquantaine de stades de foot en Afrique depuis 10 ans. Alors ça, c'est soft power. Et les Français, bon... voilà, montrer des choses, arriver avec l'armée en Mali, c'est bien, mais faire une politique de francophonie, c'est bien, mais les Chinois sont très importants aussi, donc de plus en plus. Donc on voit, il y a d'autres qui arrivent sur le terrain, qui étaient avant très français. Donc il faut voir comment ça va s'évoluer. Est-ce que les Français vont encore avoir, même en Afrique, l'influence qu'elle a eue? Donc là, donc, dernier volet, c'est ce que j'appelle la puissance vraie, real power. Donc, ce sont les limites et les possibilités. Et je crois que la question se pose pour la France aujourd'hui. OK, on tient, on est là. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que la France sera aussi forte dans le monde ? Ou pas. Alors évidemment, je crois que l'évolution va continuer avec la puissance dure. Donc, on n'a pas l'argent pour faire la concurrence avec les Chinois et les Russes en matière d'armes. Et c'est surtout la question qu'on doit poser, qui est la question de l'économie française. Parce que sans économie forte, l'influence ne peut pas rester forte. Les Allemands, les Français, les Anglais, on peut travailler ensemble au sein d'une Union européenne. On ne fait pas suffisamment. Mais on voit déjà depuis 2-3 ans les relations qui changent entre l'Allemagne et la France. C'est assez clair. Donc les Allemands sont irrités par le manque de tentative de la France de se réformer. Et ça, c'est... donc tous les gouvernements, donc c'est Sarkozy et surtout maintenant avec M. Hollande, il y a une irritation là. Et la France, c'est clair, la France stagne, la France tombe, pour reprendre le titre fameux de Nicolas Barbarès. On a vu ça l'autre jour, les chiffres sur l'investissement direct financier, qui a chuté de presque 80%. J'ai regardé les chiffres en 2007, donc l'investissement financier direct des étrangers en France était à peu près 96 milliards de dollars. En 2013, donc 6 ans plus tard, c'est moins de 6 milliards. Donc, est-ce que c'est l'attractivité de la France? Mais c'est aussi l'influence de la France, parce que si les entreprises donc internationales perdent la confiance en France, c'est grave pour la France, c'est grave pour l'emploi, c'est grave pour l'économie, c'est aussi grave pour l'image. Donc tout ça, ça casse un peu l'influence. Et il y avait eu en décembre un sondage très intéressant fait par l'American Chamber of Commerce à Paris. Et on a demandé aux managers américains en France ce que pensait le siège aux États-Unis de l'idée d'investir en France. Et là aussi, une chute dramatique sur l'attractivité de la France pour les investisseurs. Donc, je crois que pour la France, le grand défi, c'est le vrai changement. Est-ce qu'on peut vraiment trouver un dynamisme, un nouveau dynamisme? C'est urgent pour la France, pour l'économie, mais c'est aussi urgent pour l'influence de la France. Et ce n'est pas uniquement une question de politique. Donc je termine avec cette idée, et peut-être on peut en parler plus, mais évidemment, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a une politique à mener économique pour redresser le pays. Tout le monde sait ce que c'est. La Cour des comptes ne s'arrête pas d'écrire des rapports extrêmement lucides sur tout ce qu'il faut faire dans tous les domaines. Mais heureusement, à Matignon, à l'Élysée, il y a un grand tiroir où on met les rapports. Et le tiroir qui est de plus en plus rempli, mais il y a encore de la place, heureusement. Voilà. Donc c'est pas uniquement la question de la politique. Il me semble aussi qu'il y a une question à poser pour la France qui est: cette élite-là, est-ce qu'on sélectionne bien, est-ce qu'on fonde bien, est-ce que cette élite-là est vraiment la bonne élite pour mener ce pays dans un avenir avec encore de l'influence dans le monde? Donc, bon, je ne veux pas critiquer mon voisin là parce qu'il va m'attaquer. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a énormément de... dans cette élite, il n'y a pas énormément de diversité, disons. Dans d'autres pays, on a fait des efforts très importants d'aller trouver les talents partout. En France, on reste quand même avec quelques classes préparatoires, quelques grandes écoles, et ça, c'est bon. Et les grandes écoles sont excellentes, et les classes préparatoires sont excellentes. Mais est-ce qu'on a vraiment les profils diversifiés qu'il faut pour qu'on puisse vraiment avoir mené un débat clair sur l'influence de la France, mais pas uniquement une petite couche de la France, mais donc l'ensemble des Français. Parce qu'il y a beaucoup de talents dans ce pays, il y a énormément de talents. Donc Daft Punk n'a pas fait l'ENA. C'est super. Mais il me semble que pour la France, pour l'influence, il faut poser une question sur la formation, la sélection des élites, la politique à mener. Il faut surtout redéfinir son rôle au sein de l'Europe. Il faut mieux travailler avec l'Allemagne, ça c'est sûr. Il faut surtout retrouver son dynamisme économique. Et il faut renouveler sa classe politique.
Je lance les pavés, là.
Merci, Peter Gumbel. Vous savez parler au français. Merci pour votre liberté de ton, votre regard sur la puissance de la France et un certain nombre de questions, je crois, importantes que nous avons entendues, à la fois sur la puissance politique et militaire, avec finalement la question de est-ce que la France est capable de mener une politique avec d'autres, en quelque sorte. La puissance douce, soft power, avec une influence certaine, mais quand même une influence que vous jugez, vous l'avez dit, un peu ringarde, ce côté un peu anti-modèle qui rend la France touchante. Mais est-ce que la France reste moderne, avez-vous dit? Et puis la puissance vraie, la puissance de l'avenir qui va passer, je crois que nous en avons conscience, par une économie forte. C'est sans doute l'enjeu peut-être le plus important qui permet d'autres choses, l'attractivité de notre pays et puis la question de la formation des élites pour l'avenir. Nous aurons l'occasion de revenir. Merci. Je passe la parole sans plus attendre à notre autre interlocuteur venant encore de plus loin, des États-Unis, même si vous êtes en France. Douglas Herbert, vous avez la parole.
Bonjour. Je vais essayer de ne pas être trop pessimiste ce soir, parce que en fait, en tant qu'Américain, quand même, je vois la vie un peu en rose, même pour les Français. Je pense qu'il y a un bon avenir. Alors, quand j'ai appris le thème pour ce soir, quelle influence pour la France dans le monde d'aujourd'hui, j'ai fait ce que ferait n'importe quel journaliste au XXIe siècle. Je me suis tourné vers Google. Et ce que j'ai googlé dans le moteur de recherche, j'ai tapé trois mots. J'ai tapé France, perte et influence. Et ça a généré à peu près 5000 titres. En fait, à chaque fois que je passe dans une bibliothèque, une librairie en France, en fait, j'ai constaté à chaque fois qu'il y a énormément de livres consacrés à ce thème. Alors les Français, j'ai conclu, en fait, les Français sont un peu obsédés en ce moment par cette idée de la perte de leur influence dans le monde. Ils en parlent tout le temps. Et étant donné que, bien sûr, c'est un secret de polichinelle, quoi, que la France, l'économie n'est pas au beau fixe, voilà, le chômage, les jeunes, les manifs partout, la contestation, la société dans un mauvais espace. C'est-à-dire que tout le monde en parle tout le temps et on a tendance à penser que, voilà, c'est la fin du monde, voilà, on est perdu. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas vrai. Et en fait, je pense au moins au plus haut niveau parmi les élites françaises. On n'a pas vraiment pris l'ampleur ou la mesure de cette soi-disant perte d'influence. Dans la mesure où, comme on a déjà mentionné, je vais partir ce dimanche prochain avec le chef d'État aux États-Unis à Washington. Et c'est une visite qui va également les mener à San Francisco, à la bastion de high-tech. Et en fait, pour l'Élysée, à la veille de ces visites officielles, ces voyages officiels des présidents français, il y a toujours un rituel, il y a un briefing pour les journalistes à l'hôtel de Marigny, qui est juste en face de l'Élysée. C'est un joli hôtel particulier, en fait, qui accueille les chefs d'État étrangers lors de leur passage en France à chaque fois. Mais c'est vraiment impressionnant à l'intérieur, et je dis ça pour une raison. Il y a des moulures, des meubles, des tapisseries, il y a des objets d'art provenant de résidences royales un peu de partout. Et à chaque fois que je suis là, dans ce cadre, dans ce décorum, je me sens un peu intimidé. Vous êtes en face de, voilà, tous les sherpas du président, les conseillers de sa politique étrangère. Il y a un conseiller pour chaque région, parfois pour chaque pays. Et en fait, vous êtes là et je suis toujours frappé par la magnificence, la splendeur, le faste de cet endroit. Et je me dis qu'en fait, quand vous êtes toujours entouré, que vous soyez le président de la République, ministre des Affaires étrangères, vous êtes toujours dans des endroits pareils, quoi, de cette magnificence, cette splendeur. Peut-être il est un peu facile à perdre le contact avec la réalité du pays. Parce qu'en sortant à chaque fois de ces briefings, et je ressors dans le vrai Paris, bon, ok, bon, c'est le 8e, mais après, quand je rentre chez moi, c'est le vrai Paris, c'est le 10e. Je suis frappé par si on pourrait l'appeler le décalage ou le contraste avec voilà, ce que ressent la réalité de la vie quotidienne à Paris. Et le faste le décorum de ces intérieurs de l'hôtel de Marigny et ces voyages officiels. Alors, je pense que, je ne dis pas ça pour rien, parce que je pense que le fait que ces briefings et les dirigeants de l'État sont toujours dans ces... des hôtels de Marigny, il y a des hôtels particuliers, l'Élysée, l'hôtel Matignon, partout, quoi... C'est toujours l'image que se donne la France d'elle-même. C'est une image de la France peut-être un peu du 18e siècle, une image toujours monarchique un peu de la France. Je sais que c'est un peu stéréotypé de dire que oui, la France de Napoléon, la France, le président en tant que roi, le chef d'État, le monarque. Mais en fait, il y a une réalité dedans parce que je pense que on n'a jamais vu, c'est ni la gauche ni la droite en France, a eu vraiment la volonté de rompre, de faire une rupture avec ce système. Le président en France a tellement de pouvoir et est tellement, en tant qu'Américain, je le vois tellement en roi. Je sais que les Américains, oui, ils ont tendance également à... Ils font des feuilletons, des séries américaines, la Maison Blanche. Oui, le président, c'est un peu un dieu aussi, mais ce n'est pas un roi. Et il y a une vraie différence dedans. Alors, ce que je voulais dire, quand il parlait c'était un briefing, en fait c'était un briefing off, alors je ne peux pas trop dire sur ce qu'ils ont dit dans les détails, mais les grandes lignes de ce que je peux dire, c'est que ils veulent que cette visite soit, c'est censé démontrer en fait l'étroite collaboration entre les deux pays étant la France et les États-Unis. Ils ont parlé comme si c'était des partenaires à titre égal et que François Hollande va y aller, notamment oui, à Washington, à Monticello et ensuite à San Francisco pour rechercher pour l'innovation, pour bien sûr rencontrer les chefs d'entreprise américaines, les grands dirigeants des grandes entreprises high-tech américains, et pour partager avec les Américains, pour puiser chez les Américains bien sûr des idées comment mieux innover en France, mais également pour partager avec les Américains les idées qu'ont les Français pour innover. Et en fait, j'ai pensé, et en temps pour chercher pour les deux économies, en fait, l'économie américaine, l'économie de la France, pour en fait, avec le président Obama, pour que les deux présidents puissent ensemble réfléchir un peu comment ils peuvent surmonter la crise et voir, aider l'un l'autre. Et moi, la question que j'avais posée, parce que c'était une question qui n'était pas pour rien, c'est qu'en fait, Hollande, je vois, en fait, il va maintenant aux États-Unis. En fait, dans une position un peu plus de faiblesse, dans la mesure où on revient de regarder le grand titre l'autre jour dans Le Monde, c'était le grand retour de l'Amérique. Une Amérique qui est en train de renouer avec ses taux de croissance d'avant la crise financière en 2007. En fait, dans le deuxième semestre, la deuxième moitié de l'année 2013, la croissance aux États-Unis, c'était 3,7%. Qui voilà par rapport à la France qui a à peine à croître quoi, c'est il y a aucune croissance en ce moment. Alors j'ai posé la question, c'est pas vraiment deux dirigeants maintenant avec des économies complètement comparables, pareil, ils sont vraiment dans de situations différentes. Et en fait, l'Élysée ne veut pas trop en parler parce qu'il veut vraiment, il voit cette visite, une visite de présidents qui sont voilà un peu à titre égal dans leur réunion. Je voulais dire que cela dit, si l'élite française est toujours dans peut-être l'idée de la monarchie ou de la France comme une grande puissance, oui, une grande puissance dans un monde mondialisé où les choses ne sont pas exactement ce qu'ils étaient au 18e, 19e siècle, quand même, ils ont toujours l'idée que les choses ne sont pas si mauvais que ça. Mais les Français, c'est-à-dire les Français dans la vraie France, quoi, et on n'a pas besoin d'aller dans la France profonde pour le savoir, ils ne sont pas dupes, c'est-à-dire ils ont pris l'ampleur, ils ont pris la mesure d'un peu de la détresse actuellement de la France, de la fait qu'il y a, oui, une crise d'identité, il y a une crise de confiance en France. Je vais juste vous citer quelques petits sondages. Il y avait déjà un sondage récent du Savipov qui a posé la question sur l'état d'esprit qui caractérise le mieux les Français. Première, c'était la morosité, 34%, suivie de lassitude, 31%, et méfiance, 30%. Alors, morosité, lassitude, méfiance, c'est 95%. Alors, voilà. Et positif, je dirais, voilà, c'est les 5% qui restent. Il y a également un institut de sondage américain très connu qui fait beaucoup de sondages journalistiques et des sondages d'attitude publique, d'opinion publique. Ils font un sondage tous les ans des attitudes à travers, dans tous les pays du monde entier, sur les autres pays. Ce que pensent, par exemple, les Américains de la France, ce que pense la France des Américains. Et selon un sondage de Pew Research Center, en mars 2013, OK, bon, c'était presque il y a un an, mais quand même, j'imagine que ça n'a pas énormément changé. Le sondage a montré que les Français, en ce moment, voient vraiment la vie en noir. Dans la mesure, 9 sur 10 Français, 9 sur 10, 90%, ils pensent que la situation économique du pays est très, très, très mauvaise. 8 sur 10 disent que la France est sur la mauvaise voie. C'est 80% des Français pensent qu'ils ne sont pas optimistes pour l'avenir. Je vais juste comparer avec le même institut qui a mené le même sondage auprès des Allemands Les Allemands, une Allemagne qui est maintenant en train de monter en puissance, tandis que l'Allemagne est en train maintenant de chercher sa voie, l'Allemagne qui veut avoir, qui veut peser plus lourd sur la scène politique après des décennies où elle a pris de recul pour des raisons évidentes, historiques. Les Allemands sont plutôt contents de la gouvernance de leur pays et optimistes pour l'avenir. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. Je veux vous dire que pour moi, comme j'ai dit au début, moi je ne désespère pas quand je pense au thème de la France et l'influence de la France dans le monde d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec Peter Gumbel, bien sûr, sur l'idée du soft power et les atouts de la France, quoi. La France qui apporte énormément d'idées, la France qui a une manière, la capacité de penser d'une manière approfondie, de penser le monde d'une manière plus approfondie, à mon avis, que les États-Unis. Et c'est ça, c'est comme une valise d'idées que la France apporte au monde. Et j'ai interviewé ce matin, c'est intéressant, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle s'appelle Samantha Power. Elle a écrit beaucoup de livres, notamment un livre qui a gagné le prix Pulitzer sur le génocide. Et en fait, elle a fustigé les États-Unis pour, à travers leur histoire, de ne pas avoir réagi à temps pour prévenir, pour éviter, pour contrer les génocides, soit au Rwanda, soit en Irak, soit au Soudan, et soit aujourd'hui peut-être en République centrafricaine. Et je lui ai posé la question, j'ai dit que Madame ambassadeur, le président français, François Hollande, il a vraiment vanté les mérites de sa politique internationale étrangère, et notamment au Mali, où, comme vous savez, voilà, les troupes françaises sont intervenues, l'opération militaire Serval, l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an maintenant que les troupes françaises sont sur le sol là-bas. Et j'ai dit que Hollande, il dit tout le temps que c'est un succès reconnu par les Maliens, mais également par les autres pays occidentaux qui ont vraiment dit effectivement chapeau à la France, parce que nous, on n'était pas prêts à y aller, et la France a pris une décision très dure. Et elle aussi, elle a dit c'est vrai, parce que Obama, c'est un président qui a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas élu pour commencer les guerres, mais pour mettre fin aux guerres. Et il se retire de l'Irak, il est en train d'essayer de se retirer de l'Afghanistan. Elle a dit, alors, c'est pour ça qu'on a vraiment, je remercie la France pour avoir fait quelque chose que les États-Unis ne sont pas dans une mesure de faire. J'ai dit, bon, mais cela dit, la France dépend énormément des États-Unis dans cette opération. On n'en parle pas assez souvent. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a maintenant les troupes françaises sur le sol, bien sûr, ils sont là avec les forces africaines et les forces de l'ONU, qui sont en train de monter en puissance aussi. Il y a un peu moins de 6 000 soldats de l'ONU en ce moment. Et j'ai dit que, n'est-ce pas vrai que la France dépend maintenant sur les drones américains pour les renseignements, pour la surveillance, pour la reconnaissance, pour l'intelligence, pour surveiller les mouvements des ennemis sur le sol. Ce qui, on pourrait dire, c'est le plus important dans une opération militaire. Parce que oui, c'est vrai quand Hollande a dit qu'on a chassé les islamistes, les djihadistes, de leur bastion du nord du pays qu'ils avaient occupé. Mais par contre, ils n'auraient pas eu les moyens de les traquer, de les trouver, de les localiser sans les moyens américains. Je ne dis pas ça pour vanter la puissance militaire américaine. Pas du tout, mais je le dis pour dire que oui, la France a fait quelque chose, c'était un succès à Mali, on peut dire dans la mesure où une opération militaire où des gens meurent, on peut en dire que c'est un succès. Mais voilà, c'est un succès dans la mesure, bien fait pour la France, mais il faut pas oublier qu'ils avaient une insuffisance capacitaire concernant le moyen de surveillance et intelligence et renseignement. Et ça, c'est une vraie question à poser maintenant pour la France, parce que c'est une chose pour un président français, un chef d'État, de se tenir sur un podium et pour dire devant tout le monde, voilà, on a eu un grand succès au Mali, maintenant on va essayer de refaire le match et avoir un succès pareil en République centrale africaine. Mais c'est une autre chose de reconnaître que ni la France ni l'Europe en ce moment ont les moyens vraiment de mener la politique dont ils se vantent maintenant, cette politique militaire en Afrique, parce qu'ils ont... vraiment maintenant besoin des Américains qui continuent à dépenser beaucoup plus. On a parlé, Peter Gumbel a parlé de la puissance militaire. Ils ont toujours besoin des Américains et de l'OTAN. Et ça, c'est une grande question à poser pour l'avenir de la France. S'il veut continuer vraiment à peser dans le monde et surtout dans, je ne veux pas dire employer le mot précaré, parce que l'idée de la France-Afrique, c'est révolu. Et voilà, et même Hollande, je sais qu'il veut faire rupture avec cette idée. Mais quand même, s'il veut peser dans le monde, il faut repenser leur capacité militaire à l'échelle européenne. Je vais terminer juste avec un petit constat. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas désespérer. La France a énormément d'atouts. C'est 1% de la population mondiale, oui, un peu plus de 60 millions de personnes, mais quand même sixième économie mondiale, avec toutes les idées qu'ils ont, le soft power, la culture de la France qui n'est pas pour rien, vraiment, l'Institut français, l'Alliance française est un peu partout dans le monde et ça vraiment donne une image, ça essaie de maintenir, d'entretenir l'image de la France un peu partout dans le monde. Et je vais juste dire un mot à propos de l'axe franco-allemande, avant de terminer, parce que maintenant, il y a également une obsession avec l'Allemagne, la France et l'Allemagne. Et oui, c'est vrai, l'Allemagne, c'est la puissance, la plus grande économie européenne, c'est la plus grande puissance. Et l'Allemagne qui maintenant veut, comme j'ai dit, qui réclame une voix plus forte sur la scène mondiale. Ils disent que maintenant, c'est la génération d'après-guerre et on a le droit maintenant de peser un peu plus dans le monde. Mais, cela dit, cela étant, l'Allemagne a besoin de la France. L'Allemagne ne peut pas le faire tout seul. Et oui, il peut y avoir de différends, il peut y avoir de tensions dans les relations franco-allemandes, mais je pense, à la fin de la journée, le président allemand, le chancelier allemand, la chancelière allemande et le président français vont être obligés de travailler ensemble. C'est Dominique de Villepin, je vais citer Dominique de Villepin qui a dit quelque chose sur les déclinologues. Peut-être vous en avez entendu parler, c'était un mouvement, les déclinologues, qui pensent que voilà, la France est sur en déclin. Il a dit, je vois surgir, c'était il y a 10 ans, je vois surgir une nouvelle population dans notre pays, de nouveaux experts, les déclinologues. De grâce, il y a 20 siècles d'histoire dans notre pays pour nous rappeler qui nous sommes et où nous allons. Alors ce n'est pas en levant le doigt pour savoir dans quel sens va le vent que nous devons chercher à comprendre quel est le destin de la France. Et moi je vais dire que je pense que la France a toujours un grand destin.
Merci. Merci beaucoup, Douglas Herbert, pour votre appréciation de l'état d'esprit français, des Français que vous trouvez obsédés par leur perte d'influence de leur pays. Et on a pu retrouver aussi ce qui a été dit par Peter Gumbel sur cette perte de contact des élites avec la réalité. Je crois que c'est un élément important. Une France engoncée aussi, peut-être dans une image très monarchique d'elle-même, mais en même temps, source d'encouragement, c'est que les Français ne sont pas dupes de tout ça, ne sont pas dupes de la réalité, de la crise d'identité, de la crise de confiance, et que cette prise de conscience, elle peut permettre de ne pas désespérer pour l'avenir, à condition que nous puissions mettre en lumière cette capacité de réfléchir, ce que vous avez dit comme la France, comme valise d'idées qu'elle apporte au monde. Peut-être que c'est important que nous puissions l'entendre, nous. Et puis, évidemment, de repenser les liens avec l'Amérique et l'Europe pour continuer à peser. Merci beaucoup. Nous reviendrons bien sûr sur tout cela. Alors, il est temps d'entendre une parole française, non pas la parole française, mais une parole française sur ce sujet qui nous touche tant. Gilles Andréani, vous avez la parole.
Merci beaucoup, mon père. Merci de votre invitation et de l'opportunité qui m'est donnée de réfléchir à un sujet qui est souvent un peu, excusez-moi, hein, qui est souvent un peu bateau. Je me souviens d'un nombre innombrable de conférences auxquelles on serait sur comment faire pour augmenter l'influence de la France, etc. etc. Ce que je voudrais faire ici, c'est essayer de le situer un peu dans son contexte, dans ce que je crois être en tout cas son contexte historique. Et ça me paraît légitime pour deux raisons. D'abord parce que je crois qu'il y a une aspiration, une espèce de rêve français de politique étrangère un peu particulier. Il y a une espèce de volonté de la France qui lui est propre, en tout cas avec un style propre de peser sur les affaires du monde. Et je voudrais essayer d'en faire un peu essayer de voir un peu quelles sont les racines de ce sentiment. Et il est évident, je crois que ça éclaire un peu le débat d'aujourd'hui, qu'on est par rapport à ce rêve dans un point bas du cycle. C'est évident qu'on est au terme d'une, et pas forcément au terme d'ailleurs, d'une crise économique profonde, et avec une désillusion sur notre aptitude à peser dans le monde, qui tient à un contexte très précis, à mon avis, que je vais essayer d'exposer, qui est qu'on a pensé à un moment donné, dans les années 90, trouver une façon de résoudre un certain nombre de dilemmes entre nos moyens et l'affluence, entre notre aspiration à jouer un plus grand rôle et le rétrécissement objectif de nos capacités dans le projet européen. Et au fond, le projet européen se présente à nous sous le visage de la crise, des difficultés. Il y a des désillusions particulières en France à propos de ce projet. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et c'est ça que je voudrais essayer de voir avec vous. Est-ce que cet investissement du désir français de politique étrangère sur l'Europe était finalement ce qu'il fallait faire ou non? Et je vous dirais tout de suite que je pense que oui, très profondément. Mais c'est vrai que c'est un mauvais moment dans le cycle et des affaires européennes et de l'économie et de la relation de la France et de l'Europe pour faire, si j'ose dire, dans cette enceinte, un tel acte de foi. Donc je vais essayer de reprendre ces différents points. D'abord, le rêve particulier. Il y a une espèce de volonté de la France de jouer un rôle un peu disproportionné par rapport à ce qu'elle est en réalité, par rapport à ses propres moyens en politique étrangère. Alors, très souvent, nos partenaires, et vous ne l'avez pas fait, je vous remercie beaucoup l'un et l'autre, ironisent un peu sur cette ambition française en disant la grande nation, ce qui se dit peu en France, mais beaucoup à l'étranger, en français dans le texte. Et je crois que ça remonte à quelque chose qui est important dans notre patrimoine culturel, et je ne crois pas que ça remonte exactement à la monarchie, à Louis XIV, à Napoléon. Je crois que les Français sont assez raisonnables pour savoir que ça ne se répétera pas, heureusement, d'ailleurs, d'une certaine façon. Je crois que ça remonte au XIXe siècle. Et ça remonte à trois sentiments, si vous voulez. Le sentiment, on peut l'appeler comme ça, le sentiment aristocratique du rang, ou l'idée qu'un pays devenu démocratique doit se continuer néanmoins à se sortir de lui-même par de grandes entreprises de politique étrangère. Alors, celui qui dit ça le mieux, c'est Tocqueville, qui dit dans une lettre à John Stuart Mill la chose suivante. « Ce n'est pas à vous, mon cher Mill, que j'ai besoin de dire que la plus grande maladie qui menace un peuple organisé comme le nôtre, c'est l'amollissement graduel des mœurs, l'abaissement de l'esprit, la médiocrité, du goût. » Et il continue, ce n'est pas une nation démocratiquement constituée comme la nôtre, la France, qu'on peut laisser prendre aisément l'habitude de sacrifier ce qu'elle doit être, croit être sa grandeur à son repos, les grandes affaires aux petites. Ce n'est pas à une pareille nation, et j'abrève la citation, qu'il est sain de laisser croire qu'elle est déchue du rang où l'avaient mise ses pères et qu'il faut s'en consoler en faisant des chemins de fer. Voilà ce que dit Tocqueville. Il faut donc faire une grande politique étrangère. Et même chose chez un autre auteur, cette fois-ci, ce n'est pas le sentiment aristocratique du rang, c'est le messianisme républicain, si on veut. Et on le trouve chez Jules Ferry, bien sûr, qui est l'apôtre de la colonisation française, et qui dit « Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer et descendre du premier au troisième ou au quatrième rang. On ne peut proposer à un pays comme la France, et là encore j'abrège, un idéal politique qui en ferait une libre Belgique ou une Suisse républicaine. » Donc pas de Suisse et de Belgique pour la France. Elle doit être un grand pays exerçant sur les destinées de l'Europe toute l'influence qui lui appartient, c'est le sujet d'aujourd'hui. Cette influence, elle doit la répandre sur le monde et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. Donc je pense que c'est le XIXe siècle où ce désir de sortir de soi-même, encore une fois, soit par souci aristocratique du rang, méfiance de l'amollissement lié à la société démocratique, soit tout simplement pour porter le message républicain selon Jules Ferry. Et évidemment, celui qui ressuscite en quelque sorte ce vieux fonds et qu'il a exploité d'une façon qu'on ressent encore, en tout cas de la part des présidents de la Ve République, c'est le général de Gaulle, qui dans le discours de Bayeux ajoute un étage supplémentaire au raisonnement, qui est que tout se tient dans le destin d'un pays et que si il se défait à l'extérieur, s'il ne s'impose pas à l'extérieur, il se défera à l'intérieur. Et donc c'est nécessaire au maintien non seulement de la grandeur, de l'influence, mais même de l'unité, de l'identité même de la France, que d'être actif et puissant dans le monde. Alors, il est évident qu'un tel projet se heurte aux données objectives, si vous voulez, qui font que la France est plus petite dans un monde plus vaste, que ses moyens sont encore tout à fait respectables, mais en proportion des moyens des autres, ils sont inévitablement appelés à décroître un petit peu. C'est le lot de tous les pays développés. Disons, la France est parmi ces pays développés, ni le plus grand, ni le plus puissant. Donc c'est tout à fait logique que ça se heurte à des difficultés. Moi, ce qui me frappe malgré cela, c'est que tous les présidents de la République ont endossé l'habit d'une politique étrangère, disons, ambitieuse, de haut vol. On aurait pensé que des présidents confrontés à des priorités disons économiques et sociales extrêmement fortes se concentreraient sur elles et délaisseraient un peu l'international. C'est ce qu'ont fait ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande, qui étaient pourtant pas particulièrement destinés a priori par leur éducation, leur ouverture au monde, leur expérience internationale qui était quand même limitée, à une telle projection de soi-même au dehors. Et ils l'ont fait, ils continuent de le faire. Donc ce rêve continue d'habiter, si je puis dire, les présidents français et légitime sans doute en partie leur fonction vis-à-vis des Français, du moins le croient-ils. En tout cas, c'est important qu'ils continuent de le croire. Alors, à quel moment et pourquoi est-ce que la France a choisi d'investir ce désir d'expansion d'elle-même, de ses idées, de son influence au dehors, dans le projet européen? Il me semble que c'est à un moment très précis, c'est la présidence Mitterrand, après le tournant de la rigueur, et ça a permis d'un coup à la France, à ce moment-là, de régler plusieurs dilemmes importants. Les dilemmes de politique économique de François Mitterrand, je passe dessus, mais il y avait un autre projet à proposer aux Français que le socialisme dans un seul pays, qui était visiblement une impasse. Il fallait proposer un grand dessein européen. Il a admirablement fait cette conversion du socialisme vers l'idée européenne et proposé comme un grand horizon d'ambition collective à la France. Il y avait évidemment la disproportion entre les moyens et les objectifs qu'on pensait régler grâce à cette espèce de levier d'Archimède que serait pour la politique française l'Europe, la politique étrangère et de sécurité commune. On est quand même un des inspirateurs, un des leaders naturels du projet européen. On pouvait espérer se démultiplier avec le levier de la politique étrangère et de sécurité commune. Il y avait la modernité, la mise à jour économique de la France à travers l'euro, l'idée qu'on se mettait dans un parcours qui nous obligeait à une désinflation compétitive, à une maîtrise des coûts salariaux, à un renforcement de notre compétitivité qui passait par la transition vers l'euro. Et on a effectivement, effectivement fait cela. Et donc, je pense que, si vous voulez, l'ensemble de ces considérations convergeait à un moment donné autour d'une idée européenne populaire, synonyme de démocratie, synonyme de liberté, dans les années 90. Et elle a vraiment très profondément animé la politique étrangère française, qui cessait d'être à un moment donné, si vous voulez, la série de coups qu'elle est trop souvent tentée d'être. On fait un jour le Mali, je n'appelle pas le Mali un coup, je pense que c'était une bonne opération et quelque chose de salutaire, mais c'est difficile à mettre dans un concept d'ensemble. Alors on sait que la France adore opérer au sein de grands desseins, de visions d'ensemble, et du coup, l'Europe satisfaisait cette ambition de couler sa politique étrangère dans un projet global. Voilà. Donc c'était le quatrième dilemme que résolvait en quelque sorte l'investissement de la politique étrangère française dans le projet européen. Qu'est-ce que ça donne, disons, 15 ou 20 ans après? La crise de l'euro, qui évidemment ne remet pas en cause le pari fondateur, mais le rend plus difficile à assumer, pour une série de raisons dont on pourra parler, mais que vous avez l'un et l'autre évoqué, qui est qu'on n'a pas tenu la distance des disciplines qu'exigeait la monnaie unique, et disons là on retrouve d'autres caractéristiques nationales, une certaine instabilité, la conséquence, diront nos amis étrangers. Donc il y a eu cette première désillusion. L'autre, c'est le levier de politique étrangère. On s'est retrouvé spécialement au moment de la crise de l'Irak en 2003 au sein d'une Europe qui n'était pas du tout le levier qu'on pensait, mais même qui se retournait en partie contre nous, les plus opposés à l'invasion de l'Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc c'était une querelle fratricide, en quelque sorte, au sein des Européens, et où la France pouvait se dire, heureusement qu'on n'a pas de politique étrangère et de sécurité commune, véritable, qu'est-ce qu'elle nous dirait de faire aujourd'hui. Donc deuxième désillusion. Et le troisième, je crois que cette Europe qui a été vendue à l'opinion française comme un élément d'ambition nationale, mais aussi un élément protecteur contre une mondialisation dérégulée, a déçu de ce point de vue, et qu'on a vu une espèce de continuité entre le marché unique et le marché mondial, et le besoin de protection, le besoin de, qui est un besoin héréditaire français, pas sur le plan commercial, mais disons dans la génétique collective française, il y a quand même à la fois un besoin d'aller vers le monde, de s'y projeter, mais aussi une certaine volonté d'avoir un système qui protège des dangers, qui rend en tout cas l'avenir plus relativement prévisible, les relations institutionnalisées, tout ça avait un peu volé en éclats avec la mondialisation. Et on est aujourd'hui dans un creux de cycle, à la fois du point de vue économique, du point de vue du projet européen et du point de vue de l'adhésion de la France à ce projet. Et je crois que c'est ça le moment dans lequel on est, qui rend la discussion sur l'influence, le rôle de la France, etc., un peu problématique. Alors, disons, pour essayer de caractériser ce moment où on est actuellement, il y a deux voies qui sont proposées, en gros. Et aucune n'est profondément satisfaisante. L'une d'entre elles, c'est celle qu'on trouve chez Hubert Védrine ou Jean-Pierre Chevènement. Hubert Védrine, qui de façon intéressante est à la fois quelqu'un qui dit qu'on peut s'en tirer, un peu comme vous l'avez dit l'un et l'autre, on a nos cartes à jouer, les cartes de la France dans la mondialisation, il faut jouer serré, mais on peut y arriver si on défend nos intérêts, etc. Mais en même temps, il pense qu'on ne doit plus le faire à travers l'Europe. En tout cas, on a investi avec un certain degré de naïveté dans l'Europe, et qu'il faut jouer un jeu plus national et surtout chercher de moins investir dans ce qu'il appelle l'illusion européiste, en quelque sorte. Ce qui me frappe chez lui, c'est qu'il est quand même animé au fond d'un certain pessimisme, parce que je me souviens d'une de ses paroles qui était « De toutes les évolutions actuelles du monde, aucune ne nous est spontanément favorable ». On peut discuter cette phrase, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Ça montre ce qu'il inspire, donc ce qu'il propose, une sorte de combat, un peu d'arrière-garde, si je puis dire. On sait que ça va décliner la puissance et l'influence française, mais si on se débrouille bien, on doit pouvoir tenir le coup, j'allais dire, au moins un certain temps. En tout cas, tant que ces fameuses évolutions ne produisent pas pleinement leurs effets. Il y en a qui, du côté de quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement, d'ailleurs, dont le dernier livre 1914-2014 est très talentueux et très intéressant, lui, il propose carrément de changer de cap, c'est-à-dire de revenir en arrière sur l'euro, d'avoir une politique d'alliance tout à fait différente qui incorporerait la Russie, l'Afrique du Nord dans une sorte de vaste ensemble d'Europe des nations élargie, disons, de façon très considérable à la Méditerranée, qui permettrait de peser entre la Chine et les États-Unis, les deux grands leaders de demain. Alors, moi, je crois, si vous voulez, de façon très profonde, mais on peut en discuter, le pari des années 90 était le bon. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas pour la France d'autre destin que de reconstruire, et aujourd'hui elles sont à reconstruire sur certains plans, et notamment le plan de la compétitivité, ces bases de puissance et d'influence qui sont en Europe. Et je trouve qu'il y a, dans le pari mitterrandien des années 90, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments tactiques dont on pourrait discuter à l'infini. Il a réussi à diviser la droite sur Maastricht. Enfin, tout ça était très calculé. Ce n'est pas forcément la conviction d'un Européen naïf. C'est certainement pas ça. Mais il y a quand même des bases solides à ce projet. Et ces bases solides, d'abord, c'est la réalité. C'est les données évidentes, si vous voulez, que une Europe qui pèse 25% de la population mondiale en 1900 et quelque chose comme entre 7 et 9% aujourd'hui, ça dépend si on inclut la Russie et la Turquie, ce qui est un sujet. On n'a pas de choix que d'agir plus collectivement et de former un bloc sur le plus grand nombre de plans possibles, sachant que ce nombre de plans, il est dicté par la réalité politique dans chacun des pays. Il n'est pas très facile à étendre à l'infini, bien sûr. Le deuxième élément, c'est ce côté un peu organisateur de la politique étrangère française, qui aime bien les institutions, les principes, de se retrouver dans un cadre institutionnel bien défini. Et je trouve que de ce point de vue, l'Europe je pense qu'elle continue à l'être, un champ naturel de d'influence pour l'Europe, pour la France, excusez-moi. Mais simplement, encore faut-il l'admettre et le dire, si vous voulez. Et c'est vrai que l'idée européenne, faisant l'objet d'une désaffection dans le contexte de crise actuelle assez profonde de la part d'une grande partie des Français, c'est très difficile pour les dirigeants français de faire autre chose que de ruser par rapport à cet engagement européen, d'essayer de se situer au plus près d'une position qui ménage la réalité des acquis, mais qui évite l'investissement, disons, affectif et idéologique dans l'Europe, qui est trop coûteux sur le plan politique en ce moment. Alors à ça, c'est une donnée de fait de la politique d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est malgré tout dommageable aux intérêts français dans le long terme. C'est-à-dire qu'on n'entraînera pas les Français dans un réinvestissement du projet européen, dans une construction qui demande quand même beaucoup d'efforts et de discipline des bases de la puissance et de l'influence française en Europe même, si on ne leur dit pas que c'est là qu'on veut les emmener. Et si on ne leur dit pas, c'est là que je veux vous mener. Moyennant quoi, je souscris à la fois à l'ironie pleine de bienveillance qui était la vôtre et aux encouragements non dénués d'ironie qui étaient à ma droite, pour dire que je crois qu'on a, si on réinvestit ce champ européen et si on renoue avec le pari des années 90 d'une façon naturellement modifiée par rapport aux circonstances de l'époque, on a les éléments, les fondations solides et les éléments d'une politique étrangère et d'une politique d'influence durable.
Merci beaucoup Gilles Andréoni pour cette parole bien française. Merci de nous avoir aidés à prendre la mesure de ce rêve français. Je crois que c'était effectivement important pour nous de rentrer là-dedans, ce rêve de peser sur les affaires du monde, l'origine, les modalités de ce rêve, en nous expliquant que le projet européen a été toutes ces dernières années au cœur du projet d'influence de la France, précisément, mais qu'aujourd'hui, un tel projet se heurte aux données objectives du monde d'aujourd'hui, les difficultés de la construction de l'Europe, les difficultés économiques, bien évidemment. Alors, vous avez évoqué les deux voies, ou en tout cas deux voies possibles proposées. D'une part, tenir un peu le coup en jouant aussi bien que possible les cartes que nous avons, mais en prenant quand même un peu de distance vis-à-vis de ce projet européen, ou bien, au contraire, reconstruire les bases d'influence de la France à partir de l'Europe. Encore faut-il expliquer cela à une opinion publique qui reste très eurosceptique. Alors, nous voyons bien que nous ouvrons là beaucoup de champs de débat et qu'il y a sûrement beaucoup de questions qui vont émerger maintenant pour le temps de débat que nous avons entre nous, des questions, des convictions. Le micro, comme à l'habitude, va circuler. Nous allons recueillir 2-3 questions pour nos intervenants et puis ensuite nous reprendrons une série de questions.
Bonsoir. Est-ce que vous pensez, parce que ça n'a pas été vraiment dit, vous n'en avez pas vraiment parlé, vous avez
parlé assez fort dans le micro.
Oui, pardon. Bonsoir. Vous avez parlé des opérations militaires en Afrique, mais vous n'avez pas vraiment parlé de l'avenir de la langue française. Est-ce que vous croyez que, pour des raisons démographiques, mais essentiellement linguistiques, évidemment, parce que le français est parlé dans énormément de pays africains, est-ce que l'avenir de la langue française, bon, évidemment, il y a d'autres pays où on parle français, en Belgique, en Suisse et au Québec, mais est-ce que, pour des raisons démographiques, l'avenir du français est accessoirement de la culture française, même si ce n'est pas la culture française européenne, est-ce que ce n'est pas en Afrique francophone?
Merci. On prend notre question. Oui, ça, c'est la question qui nous vient de Bordeaux. Les Bordelais sont très rapides là ce soir.
Donc, les Bordelais se posent des questions sur l'industrie. Est-ce que notre industrie d'armement, qui joue un peu toute seule avec de très fortes compétences, n'aurait pas tout à gagner à jouer avec d'autres? Et une autre question, c'est comment fédérer un projet à l'international ambitieux avec une population française si diverse? Et une dernière question sur l'âge de notre classe politique, n'est-elle pas un handicap et n'est-elle pas responsable du manque de dynamisme?
Peut-être qu'on peut redire les deux dernières questions, oui, parce que c'est tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de...
L'âge de la classe politique n'est-elle pas un facteur qui provoquerait un manque de dynamisme de notre politique internationale? Et est-ce que dans un monde complexe et dépendant et interdépendant comme aujourd'hui, est-ce qu'un projet ambitieux et fédérateur de toute la population française est possible?
Bon, alors on va prendre j'ose pas dire une troisième question, puisqu'il y en avait déjà trois. Voilà, levez bien la main. Voilà, merci. Et puis après, on ira tout au fond pour la deuxième série.
Bonsoir. Est-ce que la composante nucléaire de l'armée française est encore un élément d'influence?
Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que la langue française...
Oui, la langue française, c'est une question très intéressante parce que donc tout ce qui est soft power, si vous regardez de près, vous allez constater que les Français sont obligés de plus en plus de parler en anglais. Donc Daft Punk, c'est l'anglais. Voilà. Simplement, est-ce que c'est gênant? Non. Si on veut transmettre ses idées, son influence, sa culture, il faut trouver une façon de le faire que c'est compréhensible pour les autres. Alors, il y a quand même c'est une question de taille critique. On est toujours là. Il y a suffisamment de personnes dans le monde qui parlent français, qui comprennent français, que ça vaut la peine de continuer avec la politique de la francophonie. Mais de plus en plus, je crois qu'on est obligé de passer en anglais. Donc, c'est intéressant de regarder Christine Lagarde, Fleur Pellerin. Alors, il n'y a pas beaucoup de ministres dans les gouvernements français depuis très longtemps qui parlent bien anglais. Et ceux qui le font, tout de suite, c'est l'impact. Et Nicolas Sarkozy qui a été invité à donner... intervenir devant le congrès américain, il a fait en français. Alors, qui a compris? Personne. Et c'est très charmant, hein, voilà. Mais du coup, voilà, il me semble quand même, c'est cette question, alors, est-ce que le français va mourir? Le français ne va pas mourir, mais les Français seront de plus en plus obligés de parler anglais.
Je vais juste donner un exemple concret. Au lancement de la chaîne France 24, en 2006, j'ai participé au lancement de la chaîne. En fait, il y avait un grand débat que, voilà, Jacques Chirac, à l'époque, président, il voulait avoir une CNN à la française. Il insistait pour que ça soit en français et à l'origine, au départ, uniquement en français. Et en fait, c'est à force de maintes débats, en fait, qu'on a persuadé que si la France veut vraiment se faire entendre dans le monde, il faut que ça soit une chaîne en deux langues. Maintenant, c'est trois langues, mais à l'époque, deux langues. Et en parallèle, une antenne anglaise. Parce que si on ne fait pas en anglais, ça va se limiter, ça va se borner qu'aux francophones. Et oui, il y a, je pense, 36, 37 pays au monde qui sont francophones actuellement. Mais le problème, et ça reste toujours en débat au sein de notre rédaction à France 24, parce que ces derniers temps, au début, c'était l'antenne française qui était dominante, qui avait beaucoup plus de téléspectateurs, qui était plutôt regardée surtout au Maghreb, surtout dans l'Afrique francophone. Mais ces derniers temps, quand j'ai dit notre distribution et l'équilibre, en fait, c'est la montée en puissance qu'on voit de plus en plus de la chaîne de l'antenne anglaise. Et je vais noter que c'est pas France 24 en anglais, c'est pas CNN. C'est la même chose que l'antenne française. C'est apporter une perspective française sur l'actualité du monde, mais en anglais, pour que les gens qui parlent pas français comprennent mieux la France. Mais bon, on peut bien se poser la question, et c'est très bien pour un Américain comme vous, Douglas, d'apporter la perspective française au monde. Mais en fait, voilà, c'est mieux que rien. On a pas mal de vrais bilingues à notre chaîne. Voilà, je ne suis pas un vrai bilingue. Il y a des gens avec, voilà, qui parlent absolument natif francophone, natif anglophone, qui travaille à cheval sur les deux antennes. Et je pense que c'est quelque chose de très innovant. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs. Et de plus en plus, les Français à la chaîne, qui étaient au début peut-être un peu opposés à l'idée d'une chaîne, d'une antenne anglaise, maintenant, ils comprennent de mieux en mieux que ce qu'on apporte et la valeur d'avoir une antenne anglaise. Et on vient de lancer en Inde, par exemple, 60 millions de foyers en Inde qui sont anglophones, qui maintenant regardent et apprennent un peu sur la France, quoi, l'actualité française ou le monde d'un point de vue français qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de faire si c'était uniquement en français.
Gilles Andréani, sur la langue française.
Disons, il y a beaucoup de francophonies, elles sont diverses et il faut travailler sur chacune d'entre elles. Il y a une francophonie de masse dont l'avenir, vous avez tout à fait raison, monsieur, est en Afrique du Nord et dans les pays qui restent où la francophonie reste vivante en Afrique subsaharienne. Et donc c'est là qu'il faut investir, et investir peut-être plus qu'on ne peut le faire aujourd'hui, parce que faut regarder l'état de certaines universités de ces pays, on regrette qu'il n'y ait pas plus de fonds français pour les aider, de professeurs français là-bas, et ainsi de suite. Ça, c'est la première donnée, et l'avenir de la francophonie de masse se joue là. Puis il y a une francophonie de l'élite, si je puis dire, qui se constitue. Quand on discutait de ces questions au ministère des Affaires étrangères, j'ai perdu le fil de ces discussions, mais l'idée était qu'un des gisements de la francophonie des élites, c'était les pays de langue anglaise. Parce que même s'ils renoncent très largement à apprendre les langues étrangères, ils finissent quand même par en apprendre de temps en temps, si vous voulez, surtout au niveau des élites. Et il y a un attrait à réveiller et un encouragement à apporter aux études du français. Et pour ça, il y a un instrument formidable qui sont les réseaux des lycées français à l'étranger, parce que c'était la vocation de ces lycées de former en nombre égal, si possible, des Français expatriés et des ressortissants de l'État où étaient implantés ces lycées, où sont implantés ces lycées, pour former, et on a réussi à le faire dans de nombreux pays, une petite élite, mais parfaitement francophone et intégrée, si vous voulez, qui a complètement intégré la façon de penser de la France. Et ça, je crois que c'est typiquement le genre d'effort qu'il faut faire. Vous avez cité l'exemple de New York, et il faut chérir et protéger ce réseau d'enseignement français à l'étranger, qui, pour la francophonie d'élite, entre guillemets, est absolument, absolument indispensable.
Peut-être que vous pouvez garder la parole sur la question de l'industrie d'armement, voilà, en lien avec les autres, évidemment.
Écoutez, moi, je n'ai pas de lumière particulière sur ce qu'il faut faire sur l'industrie d'armement. Je note simplement qu'il y a eu un projet tout à fait grandiose qui a vu le jour et qui a échoué, qui était la fusion EADS British Aerospace, qui n'a pas...
Parlez plus fort.
Excusez-moi, mais je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas de lumière particulière sur ce qu'il faut faire. Ce qu'on sait, c'est que dans les pays européens, le marché de l'industrie d'armement se réduit considérablement. Les perspectives d'exportation avec la montée d'autres industries nationales et la concurrence américaine n'est quand même pas absolument optimale, et donc le regroupement européen semble s'imposer. Pourquoi il a échoué sur la fusion entre les industries aéronautiques et spatiales franco-allemande et européenne, EADS et BAE, ça je ne peux pas le dire. Mais ça semblait une voie qui avait sa logique, en tout cas.
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un projet ambitieux pour la France, avec une France finalement, si j'ai bien compris la question, très diverse aujourd'hui, sans parler d'une classe politique guère dynamique et âgée, c'est ça à peu près, hein. Voilà, je ne sais pas si... Peter Gamble, vous auriez quelques lumières, ou Douglas? Allez-y, Douglas.
Quand on parle d'une classe politique âgée, vétuste, on parle de quel âge? Il faut avoir quel âge, dépasser quoi? Parce qu'en fait, moi je regarde maintenant, oui, on parle tout le temps des dinosaures français au sein des partis, que ce soit socialiste ou UMP, conservateur, mais il y a également, à mon avis, pas mal de jeunes politiques aussi, comme aux États-Unis. Bon, on n'a pas eu un président qui a 40 ans, comme les Kennedy aux États-Unis, mais je vois quand même un avenir en France pour de jeunes politiques. Et maintenant, moi, je ne désespère pas quand je regarde la scène politique. On interview très souvent des ministres qui ont 35 ans, 40 ans, voilà, qui ne sont pas trop âgés. Pour moi, ce n'est pas un grand problème. Je pense que c'est un peu stéréotypé aussi de dire que voilà, toute la classe politique, c'est des vieux, voilà, dépassés, il faut... Non, je pense que c'est en train de se renouveler, et voilà.
Peter Gamble, sur ce point.
Oui, alors je peux définitivement démentir que Valéry Giscard d'Estaing sera candidat pour la présidence en 2017. Effectivement, en France, c'est assez intéressant, vous avez un système avec l'ENA, l'École nationale d'administration, voilà... les jeunes qui sortent de l'ENA, qui vont dans les concours d'État, qui sont placés très rapidement dans les cabinets ministériels. Donc il y a de la jeunesse au sein de l'administration. Simplement, pour monter dans la politique, après, c'est plus compliqué. Bon, je crois que... Alors, Nicolas Sarkozy n'était pas aussi vieux que ça quand il a été élu. François Hollande, il n'est pas trop jeune non plus, mais il y a... c'est vrai que les leaders politiques qui ont 40 ans ne se voient pas trop. Il avait quel âge quand il a été président?
48,
voilà. Donc, voilà. Bref. Donc, je ne crois pas, franchement, que ça, c'est le problème. Et je ne crois non plus que cette population diverse soit un problème. Il me semble plutôt c'est l'imagination qui manque. Ce n'est pas la population diverse qui complique la chose. Un projet ambitieux. Ce que je trouve en France, en tant qu'étranger qui est là depuis maintenant 11 ans, c'est que le débat dans tous les domaines reste extrêmement idéologique, extrêmement figé, et c'est très difficile d'en s'en sentir. Donc je vois ça surtout dans l'éducation, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine, mais aussi dans plein d'autres, dans l'économie. Les Français n'ont pas fait, comme les Allemands, le changement avec le Bad Godesberg Declaration en 69, les Allemands qui ont complètement changé à gauche. Et Tony Blair en Angleterre, on n'a pas eu à gauche, par exemple, un changement. Finalement, François Hollande dit « je suis social-démocrate », on ne sait absolument pas ce qu'il veut dire avec ça, mais c'est très sympa. Au moins, et tout le monde dit « Ah, il est social-démocrate, quel choc, quelle horreur !» Bon, bref, il y a une idéologie. Et je crois que pour la France, c'est ça qui est important. Vraiment, l'avenir, ça passe par un choix plus pragmatique, mais une vision qui est moins dogmatique. Voilà.
Gilles Andréani.
Bon, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, ils sont élus par les Français, ils les choisissent, donc ils en portent un peu la responsabilité d'une certaine façon. Donc je suis pas sûr si c'est ça le vrai sujet pour l'avenir de la France. Moi, un point sur lequel Peter Gamble a écrit, moi auquel je suis très sensible, c'est la base dans beaucoup de domaines de l'assise sociale de la classe dirigeante française est très étroite. Et vous avez raison. Quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, on a eu le sentiment d'une espèce de révolution dans la composition des élites britanniques. À plusieurs reprises dans l'histoire britannique, ça s'est produit. Et en France, c'est vrai qu'on reste sur le même stock, celui qui sort des grandes écoles, mais pas seulement des grandes écoles. Moi qui suis ancien élève des jésuites, on aime toujours taquiner ses anciens maîtres. Et il y avait tellement d'anciens élèves de Franklin dans le cabinet de Balladur qui avaient des petites plaisanteries en réunion de cabinet sur le fait que, voilà, on parlait du père Gilibert, etc. Donc, c'est pas très bon, si vous voulez. C'est pas la proportion normale. Donc, il faut qu'un pays, et c'est vraiment un dilemme français très, très particulier, ouvre sa classe dirigeante et est une assise, disons, sociale, culturelle, géographique géographique. C'est Patrick Vell qui fait remarquer que la moitié des départements français n'ont fourni aucun élève à l'ENA ou à l'École normale supérieure depuis 20 ans. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la bonne proportion. Donc il faut, ça c'est un sujet vraiment d'avenir, dans un pays qui a raison, il le fait, d'exclure de la rigueur budgétaire l'enseignement supérieur, de vouloir absolument investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, et c'est un choix nécessaire. Il faut en même temps élargir absolument les bases sociales de recrutement des élites, si ce mot a un sens, françaises.
Juste rapidement, le dynamisme, c'est vraiment important pour moi parce qu'en fait, par exemple, je pense qu'il faut rompre un peu plus avec le système énarque. Tout le monde est énarque. Quand j'ai parlé tout à l'heure du briefing à l'Élysée présidentiel, tous ces sherpas, tous les conseillers politiques, tout le monde est de l'ENA. Alors, ou l'école normale supérieure. Alors, tout le monde est de la même école, c'est pas qu'en politique, en journalisme également. À France 24, on recrute quasiment exclusivement côté français de Sciences Po, école de journalisme. Alors, tout le monde a la même éducation. Bien, c'est bien parce qu'on sait exactement ce qu'ils savent, leur éducation. C'est une quantité connue, c'est quelque chose de connu, mais par contre, on manque parfois la diversité de pensée et la diversité. Voilà, tout simple.
Alors, peut-être un point sur la question nucléaire. On a, dans la présentation de la puissance française, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du poids du nucléaire. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot sur quel rôle cela joue véritablement?
Je ne sais pas.
Le nucléaire, c'est paradoxal. C'est à la fois, bien sûr, ça a été pendant la guerre froide, un atout politique. Politico-militaire très important, ça nous mettait à la table des grands d'une certaine façon. Mais pour ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire l'assise européenne de la politique française et ses bases d'influence en Europe, ça ne nous valait guère d'influence. C'est-à-dire que ça n'a jamais, on a fait toutes sortes de tentatives, mais ça n'a jamais servi à rapprocher vraiment les deux puissances nucléaires d'Europe pour toutes sortes de raisons. Toutes les tentatives de coopération franco-britannique ont échoué. On peut discuter pourquoi, mais enfin bon, peu importe, le fait est là. Et d'autre part, c'était un motif d'incompréhension et parfois de division entre en tout cas la France et l'Allemagne. Et ça n'a jamais, je n'ai jamais vu le nucléaire constituer un vrai terrain d'entente possible entre les Européens, contrairement à ce que pensaient les Français. Les Français ont à plusieurs reprises lancé des tentatives. Je me souviens, une des dernières avait été la tentative d'Alain Juppé de proposer une dissuasion concertée aux Allemands. Finalement, ils n'en avaient pas voulu, etc. De toute façon, on est dans un monde où le nucléaire est en arrière-plan d'un point de vue stratégique. Il est là comme ultime réassurance, mais il n'est pas actif dans la politique internationale. Disons, ce n'est pas un argument d'influence. Son champ était déjà étroit, si vous voulez, pendant la guerre froide. Ça n'est pas un instrument d'influence, j'allais dire, pratique, quotidien dans la discussion sur les affaires internationales. Donc, honnêtement, je pense que c'est important d'avoir l'arme nucléaire pour la France. Mais ça me rappelle ce que disait un commentateur britannique, qui était que, comme les enfants victoriens, les armes nucléaires devaient être vues, mais pas entendues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en parler, même si c'est extrêmement utile, je pense, sur le long terme, de conserver une capacité nucléaire pour la France.
Peter Gamble, vous vouliez dire un mot sur ce point, et on va prendre une autre série de questions.
Non, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, c'est pas très utile quand même en Mali. C'est pas très utile nulle part finalement. Et aujourd'hui, donc, une puissance militaire efficace, c'est surtout un renseignement. Très poussé, ce qui est toujours le cas en France. C'est pas comme la NSA, mais on suit quand même. Donc c'est ça qui compte beaucoup plus que l'option militaire. Donc, nucléaire.
Voilà. Reprenons maintenant une série de questions. On va tout au fond.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Très bien.
Bonsoir, merci. Sur l'influence, moi, il m'apparaît que finalement, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment pour la garder. Et pour revenir sur deux, trois choses qui ont été dites ce soir, entendre par exemple, et c'était très intéressant, Monsieur Andréani, je vous en remercie, que la France a parié sur la plateforme européenne pour exercer son influence dans le monde à un moment où l'Europe se préparait à s'élargir et donc où le projet européen avait toutes les chances de se diluer. C'est quand même extraordinaire comme anachronisme et comme erreur de jugement. Je trouve ça confondant. Monsieur Herbert, vous avez évoqué France 24, et ça aussi, pour moi, c'est assez illustratif d'un drôle de choix, parce que on a créé un deuxième véhicule France 24 dans un pays où on avait déjà un véhicule RFI qui avait fait ses preuves, et dans une période où les technologies s'intégrant, produire de la radio ou produire de la télévision, ma foi, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant. Donc je ne crois pas que la solution viendra de nos élites, je ne crois pas qu'elle viendra d'en haut, ça je pense que la preuve est faite que ce serait désespérant d'attendre la solution à ce niveau-là. Mais je voulais relever justement, et ça c'est plus le côté témoignage, que la société civile et que la jeunesse de ce pays a du potentiel, et je crois qu'il faut parier là-dessus. Moi, pendant des années, j'ai travaillé dans le monde culturel. Et je voyais les jeunes talents à l'œuvre. Et quand je les voyais appelés par des studios, notamment nord-américains, je me disais que, oui, la France avait encore une influence. Maintenant, je travaille dans le secteur de l'entrepreneuriat social, dans le monde à l'international. Et quand je vois les jeunes diplômés des grandes écoles françaises maintenant créer diplôme en poche, sans sentir le besoin de passer par des grands cabinets de consulting, sans sentir le besoin de passer par des entreprises du CAC 40, créer tout de suite une entreprise sociale dont ils veulent qu'elle soit utile pour le monde autour d'eux, je suis très rassuré et très stimulé. Voilà.
Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. On aura sûrement l'occasion de revenir, prendre de bonnes décisions au bon moment. Il y a sûrement d'autres témoignages ou questions. Le sujet vous laisse quoi ? Ah, oui, je m'étonnais.
Bonsoir. Oui, merci de vos interventions. Je voudrais revenir sur la diversité de la formation des élites. Vous avez parlé qu'il fallait effectivement une diversité au niveau recrutement, par exemple d'une école comme l'ENA. Il ne faut pas non plus un mélange de formation au niveau des élites, de ne pas avoir effectivement, comme a dit M. Herbert, une majorité d'énarques au niveau effectivement des hauts fonctionnaires qui décident. Et je pense qu'il y a eu aussi une diminution des scientifiques dans les ministères. Par exemple, le nombre de polytechniciens a diminué. Et par exemple, je prends un exemple, je prends le BRGM, qui est le Bureau des recherches et géologique minière. C'est la première fois qu'il y a un énarque qui est le président directeur général.
Merci. Par ici, devant Alexis. Voilà. Hein? Levez bien la main pour qu'on vous voit. Voilà. Merci. Question courte, si possible.
Oui, bonjour, bien sûr. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu de la part de l'intervenant d'hiver. C'est le principal atout de la France par rapport à ses partenaires ou ses concurrents, c'est sa démographie.
Mmh. Démographie. Merci. Alors, on peut peut-être... on voit bien que cette question de la formation des élites, l'un des intervenants a dit que la solution ne viendra pas de nos élites. Bon, voilà, on voit bien qu'il y a un enjeu autour de ceux qui peuvent faire bouger notre pays. Peut-être qu'il y a des choses à dire, nos intervenants. Oui, Douglas.
C'est intéressant parce qu'en fait, il y a toujours un projet pour les villes, en fait, pour la banlieue. Tous les présidents, ils ont leur projet pour investir dans la banlieue, de profiter du vrai talent dans la banlieue. Parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir de la France, quoi. Il y a toute une ressource là dont on ne profite pas assez. Je sais, c'est en train de changer. Ça commence à, c'est pas comme il y a 10-20 ans. Il y a beaucoup de projets à l'intérieur des banlieues françaises. Mais je trouve quand même un peu une ironie qu'il y avait un projet il n'y a pas longtemps de l'ambassade des États-Unis qui sont allés dans la banlieue française pour trouver des entrepreneurs. C'était les Américains, en fin de compte, c'était les Américains qui y allaient pour puiser dans la banlieue pour trouver vraiment. Ils reconnaissaient tout de suite que attendez, mais il y a énormément des milliers de gens qui parmi beaucoup d'entre eux qui sont au chômage. C'est juste une question de la bonne formation, de faire le contact, de les mettre en rapport en réseau avec les réseaux qu'il fait, de les pistonner un peu, quoi, pour qu'ils puissent avoir le même accès à la société. Et c'est cette question-là, c'est la marginalisation, et c'est pas stéréotypé d'en parler, parce que c'est vraiment, c'est ça quand on sort de Paris intramuros, quoi, vous voyez l'autre France, quoi. C'est incroyable. C'est un décollage qui, en tant qu'étranger, en tant qu'Américain en France, c'est la chose qui me frappe le plus, quoi. C'est derrière le périph, combien ça change rapidement la vie. Et quand on va juste dans le RER à l'aéroport de Gare du Nord ou de Châtelet à Roissy, vous voyez une autre France en 20 minutes. Et c'est incroyable. Et c'est juste à côté de Paris, la ville la plus gruyant, la plus magnifique, quoi, du monde, une des villes vraiment extraordinaires, avec tellement de talent, et on n'en profite pas, c'est juste derrière le mur, la muraille, je ne sais pas.
Merci. Peter Gamble.
Oui, alors donc, c'est mon sujet à moi, donc, alors, très, très vraiment, donc, je ne tire pas sur les énarques, non seulement parce que je suis à côté d'un, mais parce que c'est une bonne école. C'est pas le problème. C'est pas ça le problème. C'est, l'école polytechnique est une école magnifique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un déterminisme dans le système français qui fait en sorte que ceux qui ont fait ces écoles-là vont tout de suite accéder au sommet. On a dans d'autres pays, dans tous les autres pays presque, donc on a des élites, et les élites qui sont bien formées. Donc si vous faites Harvard ou Princeton ou Yale aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances que si vous avez fait Rutgers, c'est évident. Mais il n'y a, la différence, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas d'automatisme, et surtout, 2 ans après avoir fait Princeton, on ne vous dit pas « Ah, vous avez fait Princeton, super, voici un poste magnifique », on vous dit « Qu'est-ce que vous avez fait depuis Princeton ?» Et donc ici, c'est « Ah, vous avez fait l'ENA, ah, vous êtes ENA, magnifique, voilà, voici un poste, prenez la présidence, et arrivez avec toute votre classe, toute votre promotion, donc s'il vous plaît, parce qu'on attend que ça, voilà. » Donc, il y a, ça c'est le problème. Je crois qu'il y a, donc, avec les grands cours d'État, tout ça, ce qui, alors, je suis désolé, mais bon, bref. il y a tous ces mécanismes en jeu. Et alors, je me pose la question, le Conseil d'État, pourquoi le Conseil d'État ne prend pas les meilleurs juristes français du monde? Même si on a fait, donc, des études à Harvard, pourquoi simplement passer par, il faut passer par ENA. Je sais, il y a des concours externes, etc. Mais finalement, c'est ça. Donc, c'est ça le déterminisme. Donc, pour le recrutement, on est obsédé par le concours. Et c'est très bien. On a cette vision méritocratique. C'est le concours qui va niveler tout, que chaque enfant de n'importe quel background socio-économique, de n'importe quelle région, peut quand même accéder au sommet, en théorie, de l'État. Mais, comme vous avez dit, c'est pas ça. La réalité, c'est tout autre. Donc, il faut passer par 1 des 5 prépas, 3 à Paris, 2 à Versailles. Ensuite, non, c'est sûr. Et ensuite, passer par 2-3 grandes écoles pour enfin avoir la poste. Donc, et évidemment, il y a donc les milieux socio-économiques se rassemblent dans ces écoles. Les Américains, les Anglais, ils ont fait un choix il y a 20 ans, 30 ans même, aux États-Unis, d'aller ailleurs, d'aller chercher aussi d'autres talents qui échappent les écoles classiques, disons. Donc il y a un choix de discrimination positive. En France, on n'aime pas ça. On a fait ça à Sciences Po. C'est Richard Decoing qui l'a fait, qui a créé une voie, une procédure d'admission différente. Critiqué comme tout, toujours, depuis 11 ans, mais finalement, qui a fait en sorte que d'autres profils ont intégré Sciences Po. Très critiqué, et je crois que jusqu'à présent, il y a très peu d'eux qui ont fait le saut jusqu'à à l'ENA. Mais les résultats sont clairs. Donc, je donne rapidement une statistique. En Angleterre, il y a 25 ans, à peu près 2/3 des présidents des grands groupes, donc le FTSE 100, étaient donc diplômés de Oxford ou Cambridge, donc 2/3. Aujourd'hui, c'est 20%. Parce que l'expérience et l'expérience est plus importante que l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, il me semble que c'est ça qui manque en France. Il faut demander aux jeunes, alors voilà, vous avez fait toutes ces écoles, c'est magnifique, fabuleux, mais est-ce que vous êtes vraiment bon ou pas? Que vous êtes brillant en maths à l'âge de 16 ans ne veut pas dire que vous êtes capable de gérer un groupe diversifié à 30 ans. Et voilà, donc c'est ça, c'est tout ça la question qu'il faut poser.
Merci, je pense que Gilles Andréani a quelque chose à dire peut-être.
Moi je voudrais juste, je suis rassuré par cette discussion parce que je note que le deuxième intervenant a illustré le problème des élites françaises par le scandale que constituait le fait qu'un dirigeant issu de Polytechnique avait été remplacé par quelqu'un sorti de l'ENA. Ça prouve qu'on est toujours en France, donc on n'est pas en terrain connu. Si vous voulez. Le débat continue. Donc voilà. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter sur les remarques qui ont été faites. J'avais dit moi-même que je pensais que la base de recrutement des grandes écoles était trop étroite. C'était un grand problème pour la France. C'est un problème qui n'est pas propre à l'ENA, qui est propre, à mon avis, à la relation entre les grandes écoles et l'université, et à ce système complètement dual d'enseignement supérieur, avec d'un côté les grandes écoles, de l'autre l'université. Et la solution à ce problème, s'il y en a une, c'est d'atténuer progressivement, espérons-la supprimer un jour, cette distinction absolument fondatrice entre les grandes écoles et les universités par toutes sortes de procédés, de passerelles, d'atténuation de la différence, d'élèves de grandes écoles qui font des doctorats, etc. C'est un travail patient, de long terme, d'association des grandes écoles et des universités, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. On a commencé à le faire un peu, on ne l'a pas assez fait. Et je pense que c'est fondamentalement ça, le travail à faire. Et je crois que là-dessus, il y a quand même des choses qui ont été, il ne faut pas se décourager complètement, des choses qui ont été faites. Si vous permettez, j'aurais souhaité répondre au premier intervenant sur les choix à contre-temps. Parce qu'il a, si je peux me permettre, je crois qu'il a à la fois tort et raison. Il a raison sur le fait que il y a eu une désaffection, spécialement en France, vis-à-vis de l'Europe, liée à l'élargissement, trop vite, qui semblait probablement trop large, en tout cas, et qui a plongé le projet européen un peu dans l'inconnu, ne serait-ce qu'à cause de l'hypothèque turque, qui a quand même beaucoup marqué les esprits sur ce qu'on voulait faire exactement à travers ce projet européen. En revanche, le pari mitterrandien, si vous voulez, d'accompagner l'unification allemande par un surcroît d'intégration européenne et de parier sur l'Europe du point de vue de la politique étrangère, Paris qui, par parenthèse, précède la décision du grand élargissement, qui, elle, n'est venue que beaucoup plus tard, lui-même était réticent vis-à-vis de l'élargissement et d'un élargissement rapide. Ce pari-là était, à mon avis, fondé. Et je pense que l'élargissement étant accompli et en partie digéré, si je puis dire, on peut trouver des moyens de poursuivre ce pari dans des conditions différentes. Naturellement, la vie n'est pas là. Les circonstances ont changé, mais en tenant compte notamment de l'élargissement.
Nous allons terminer peut-être juste, il y avait une question que je ne veux pas oublier sur les atouts de la France qui sont la démographie. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire autour de cet atout qui est effectivement assez important? Gilles Andréani ou Peter
Dombert? Je leur ai juste une idée pour y réfléchir, et c'est une idée qui ne m'appartient pas, qui appartient à des sociologues français, dont l'un d'entre eux est, j'ai oublié son prénom, mais Morin, un sociologue, oui, pardon, que j'apprécie beaucoup, et je trouve que le plus jeune MAU, peu importe, excusez-moi de ce trou de mémoire, ça sert à rien d'avoir une démocratie une démographie dynamique, si, ça sert sur le plan économique bien sûr, mais en termes sociaux, si vous n'aménagez pas des modes d'accès au marché du travail, finalement des modes d'accès à la position dans la société qui soit accessible aux jeunes. Voilà. Et je pense qu'il y a une division sociale profonde aujourd'hui entre, disons, les classes d'âge établies et les jeunes qui accèdent à l'emploi et qui cherchent leur place dans la société. Il y a une division sociale qui se traduit par cette statistique quand même assez troublante, qui est que le revenu médian des retraités est supérieur aujourd'hui à celui des actifs en France. Et donc je crois que c'est un véritable sujet de débat avec la démographie qu'on a, qui est une démographie de riches, si je puis dire, une démographie qui est porteuse d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux jeunes d'accéder dans des conditions qui ne soient pas inégales par rapport à ceux qui sont en place, si je puis dire, au marché du travail et aux positions sociales auxquelles ils aspirent légitimement.
Voilà, l'heure est venue pour nous de terminer notre soirée. Je voudrais en votre nom remercier profondément Gilles Andréani, Douglas Herbert et Peter Gumble de ce qu'ils nous ont dit. En pointant, je crois, un certain nombre d'enjeux, de défis pour nous, de leviers aussi pour l'avenir de notre pays. Je voudrais remercier tout particulièrement Peter Gumble et Douglas Herbert parce que je crois que c'est important que vous restiez longtemps dans notre pays. Ça nous fait du bien. Parfois, vous croyez peut-être dans notre pays peut-être plus que nous ne croyons nous-mêmes et vous aidez sûrement à ce que les Français aiment les Anglais et les Américains, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses. Voilà, donc merci beaucoup de votre présence.
Merci.
Je vous invite donc le mardi du 4 mars pour la prochaine soirée d'éthique publique sur le thème « Où nous conduit le pape François ?». Merci de votre fidélité.
Bonjour à des gens.
Très intéressant.